Alors, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu constater en entendant mon nom, je suis italien. Donc j'ai un accent, en plus j'ai un microphone, donc bonne chance. Je vais essayer d'articuler le plus possible. Donc on m'a demandé aujourd'hui de parler d'un personnage qui est typiquement italien, mais qui est pourtant existé un peu partout en Europe, qui est les Gaga. Les Gaga, c'est une histoire avant tout d'imitation et l'histoire du mensonge aussi. C'est un produit typique du 19e siècle et spécifiquement c'est un produit qui a toujours concerné l'Italie et les Italiens. L'origine du mot, déjà c'est drôle mais ça va être pire. L'origine du mot est bien évidemment inconnue, mais dans d'autres pays que l'Italie, les Gaga a toujours eu d'autres petits noms. En France notamment, il y a un petit poème de 1844 que je vais vous lire. Où on parle en effet des différentes manifestations du gaga français. On a vu les mignons, les raffinés, les beaux, les petits marquis à la dentelle, les parfaits céladons, les roués, les demoiseaux, les poupins abbés des ruelles et les fiers mouscadins, aînés des incroyables, et les terribles bousingots, les lions à tout crin, enfin les fashionables, les gants jaunes, les calicots, les modernes gandins, les dames sont congénères, cocodés ses dérivés. Quelle ménagerie! Hélas, tout dégénère, car voici les petits crevés. Tout ça, c'est pour dire que les Gaga a été toujours un personnage ridiculisé par la société, et qui est pourtant été toujours confondu avec un autre personnage, qui est un autre produit du 19e siècle, qui est les dandys. Or, ici, dans cette image, on devrait pouvoir voir Lord Brummel d'un côté, qui est considéré être la première dandy. Et de l'autre côté, c'est un personnage qui était très connu dans la Londres de l'époque, Lord Lumley's Caffington. Or, vous voyez déjà la différence de la tenue. Les dandys, ils se veulent être uniques, alors que les Gaga prend un sens seulement s'il est vu et reconnu à l'intérieur d'un groupe. Donc, premier axiome, la parure du Gaga, bien qu'inspirée à celle de l'homme élégante, du gentleman ou du dandy, ne remet pas en cause les diktats de la société comme peut le faire les dandys. La distinction, qui est une caractéristique propre du dandy, n'existe pas dans les Gaga. Celui-ci se pare avec la peau morte du dandy pour se faire reconnaître en tant qu'esthète, au gentilhomme ou homme à la mode, au sein d'un groupe spécifique. Donc si les dandys, comme disait Baudelaire, peut être heureux juste en vivant devant un miroir, les Gaga, lui, il a absolument besoin d'un public. Il a absolument besoin du regard de la société. Qu'est-ce qu'il fait, en gros, les Gaga? Voilà, il sépare des signes extérieurs de l'homme élégant de son époque, bien sûr. Ça, c'est une caricature contemporaine à Brummel, donc 1800... c'est même daté, 1799. Et pourtant, il applique mal les préceptes auxquels il s'inspire. Les Gaga est le fruit d'une époque où la beauté de la mise masculine ne se mesurait pas avec les paramètres de la mode, mais du style et du goût. La mode de l'époque n'existait pas. Ils avaient des tendances, mais il n'y avait pas de stylistes. Les bons goûts n'est certainement pas définissable, mais on peut dire qu'il correspond à un réel, nécessaire, fondamental besoin de beauté qui est propre à la femme comme à l'homme. Donc les Gaga s'approprient des signaux extérieurs de l'homme du goût et ils les interprètent mal. Souvent, ils versent dans l'exagération de ceux-ci, car ils ne comprennent pas que c'est dans les principes de la discrétion, le célèbre understatement anglais, que la véritable élégance masculine est censée évoluer. Comment cela est possible? Cela est à la faute de certains personnages, comme le premier que voici, c'est une caricature de Honoré de Balzac, qui publie en 1830... un traité de la vie élégante. Il n'est pas le seul à écrire sur cet argument. Au début du 19e, surtout au courant des années 30 et 40, la bourgeoisie qui a conquis le pouvoir et qui essaye de se faire assimiler à une nouvelle aristocratie a tout de même besoin de certains repères qui étaient propres des anciennes patrons, disons, pour se faire respecter, pour se faire aimer par les anciennes patrons eux-mêmes, puisque l'aristocratie reste quand même un modèle de goût, un modèle pour la belle vie, en fait, de l'époque. Les savoir-vivre aristocratiques étaient avant essentiellement transmis par les usages, la culture et les traditions qui étaient internes au sein de l'aristocratie. Avec les nouveaux riches, il y a nécessité des manuels. Des manuels pour apprendre comment se comporter en société, comment briller en société. Donc, un deuxième axiome, les gagas est souvent parvenu en nouveau riche. Il a besoin d'assimiler au plus vite des préceptes sans forcément faire attention à comprendre les raisons de l'existence de ceux-ci. Alors que sur le dandisme, on a écrit pas mal de livres, il y a plein de bouquins et de traités qui sont presque philosophiques, on peut dire aujourd'hui. Les gagas, il est très très loin de tout ça. Les magazines d'art de vivre masculin d'aujourd'hui recouvrent un rôle analogue que les traités de la vie élégante publiés par Balzac et ses acolytes, dans lesquels, dans le même temps, il donne des préceptes, mais il se moque aussi de ses lecteurs. Alors que lui-même, il s'est baladé avec une canne faite sur mesure pour lui, qui était couverte de je ne sais plus quelle topaze ou autre pierre précieuse. Et évidemment, on s'est moqué de lui parce que il n'était pas forcément une figure de plus élégante du Paris à l'époque. À côté de lui, on a un personnage italien qui est Gabriele D'Annunzio, un grand poète, pardon, et romancier des années 1900, qui fut le parfait représentant du type de l'esthète en Italie. Les gagas, que comme on a vu, essayent d'imiter des personnages plus haut placés que lui. Les gagas italiens de l'époque, ils essayent de se faire assimiler à un esthète. Donc autour du 1900, l'homme du goût est forcément un esthète. Les poètes D'Annunzio avaient un garde-robe très grand et somptueux, une partie duquel est aujourd'hui visible dans sa maison-musée, les Vittoriale, en Lombardie. Donc D'Annunzio fut l'inspirateur d'une très longue liste d'imitateurs, dont je ne peux pas vous faire les noms, puisque la plupart y restent inconnus. D'autres, ils sont plus ou moins connus en Italie, mais ce serait inutile de vous en parler, puisqu'en France, leurs nouvelles, leurs romans ne sont jamais été traduits, et heureusement pour vous, ils ne le seront jamais. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que Gabriele D'Annunzio était lui-même un imitateur de quelqu'un d'autre, de ce personnage-là, que peut-être vous connaissez, Oscar Wilde, qui lui-même était la cible de plusieurs journalistes, commentaires et caricaturistes anglais de l'époque. Il y avait plein d'esthètes qui se piquaient de s'habiller comme lui et de se comporter comme Oscar Wilde, en se baladant avec des fleurs dans la main, dans les parcs publics, comme il paraît que lui le faisait. Ce que c'est important de souligner au fin de notre discours, c'est que les esthètes font de l'art une déesse privilégiée. L'Italie était à l'époque, comme aujourd'hui, le pays le plus visité pour toutes sortes d'esthètes, et cela déjà à partir de la fin du XVIIe siècle avec les grands tours. Au 1900, être une italianiste est devenu une mode. Wilde est une de ces esthètes, comme D'Annunzio en Italie, qui inspire un très grand nombre de gagas anglais. Dans son roman, avec vue sur l'Arnaud, Forster décrit ce type de gaga anglais, une esthète stérile, passionnée d'art italienne, totalement incapable d'avoir des rapports humains sincères. Avec vue sur l'Arnaud a été tiré un film qui s'appelle Chambre avec vue. Celui-ci, c'est le personnage de l'esthète anglais qui est joué dans le film. Il s'appelle Cecil Wise. Il est assez drôle. Je vous conseille très fortement de voir ce film. Donc, voilà donc qu'est-ce qu'on pouvait voir dans les rues de Paris, de Londres, de Rome en ce début du siècle. C'est inutile de commenter cette caricature qui parle toute seule. Il y a une élégance tape à l'œil, un abus des signes conventionnels qui définissent l'homme élégant de l'époque. Des tissus un peu trop cool bariolés, des chaussures un peu trop longues, les cigares, les monocles, toute la panoplie de l'homme élégant du 1900 est usée et abusée. Donc évidemment, ce genre de personnages qui veulent se faire passer pour des personnes meilleures de ce qu'ils sont, ils n'y arrivent pas et ils se font caricaturiser. En voici une autre. comme ils abusent tous du même signaux de l'homme et les gardes, évidemment, ces trois personnages, qui même ne sont peut-être pas censés se connaître entre eux, ils font tous la même chose. C'est important de souligner aussi leur mise. La coupe de leurs vêtements était exagérée par rapport à celle qui était à la mode à l'époque. La taille est bien plus petite. Ils portaient probablement aussi des corsets de temps en temps. Les épaules sont un petit peu trop rembourrées. Leurs faux cols sont un petit peu trop hauts. C'est chose qui était un signe extérieur du gaga dont D'Annunzio a abusé très volontiers d'ailleurs, les faux cols très très hauts. La cigarette, leurs gants jaunes, ils sont un petit peu trop jaunes, ou alors ils les portent même roses. Enfin, on va passer au fainéant à l'italienne. Et donc, finalement, on va parler du vrai gaga. C'est dans les années 10 que les mots commencent à être employés en Italie. Et c'est pour identifier un personnage très, très spécifique. Le théâtre populaire napolitain, qui a une longue tradition de moquerie, avait tout de suite pris les gagas comme une masque. Les gagas deviennent donc un personnage presque indispensable dans toute comédie de boulevard. Il reste cependant un personnage marginal, comme marginal est son rôle dans la vie. Eduardo Scarpetta, que voici, napolitain, joue d'une façon professionnelle les gagas au théâtre. Son personnage s'appelait Felice Sciosciamocca. Son personnage avait eu tellement de succès que Gabriele D'Annunzio lui intente un procès pour diffamation. Un procès que D'Annunzio perd, mais qui ruine complètement Sciosciamocca, avec elle ne pourra plus faire du théâtre après cette laide histoire. Au courant des années 20 et des années 30, on a d'autres comiques, d'autres acteurs qui se mettent à jouer les gagas sur scène. Ici, on voit le gaga Gastone, qui est joué par Ettore Petrolini, qui interprète les gagas dans des espèces de one-man show, qui étaient des très très grands succès. Son gaga, il se veut esthète, et bien sûr, il se prend très au sérieux en faisant rire le public. On peut aussi souligner le fait qu'en Italie, dans cette époque, on vit sous un régime fasciste qui impose aux Italiens de faire semblant que tout va bien, que la vie est merveilleuse, qu'avec Mussolini, on s'épame dans la richesse. Et du coup, les gagas de Petrolini et plus tard les gagas de Toto, qui est devenu d'ailleurs un très célèbre acteur du cinéma, il parle aussi de la condition des Italiens de cette époque. Les gagas de Toto et de Petrolini, ils se vendent sur scène comme un personnage connu, respectable, des génies qui fréquentent des baronnes et des princesses, tout en laissant sous-entendre que les soirs, il n'a rien à manger à la maison puisqu'il n'a pas un rond dans la poche. Dans la chanson aussi, dans la chanson de Tabarin, de Café Concert, on a des personnages comme Armando Gil et Gino Franzi qui composent des chansons en vers pour se moquer du gaga. Ça va? Cool. 7 minutes? Oh, ça met la pression. Alors, on va rapidement parler de Rodolfo Valentino, un acteur qui fut un gaga dans la vraie vie, comme dans le cinéma, même si au cinéma, il n'était pas censé jouer les gagas, mais finalement, il l'était aussi dans le cinéma. Il était toujours apprêté, les cheveux gominés. Il portait que des costumes qui exaltaient et qui exagéraient la mode de l'époque. Une taille très serrée et très haute, des vestes assez longues, des pantalons un peu trop moulantes et des faux cols un petit peu bas pour montrer les coups. Valentino a été la première star du cinéma mondial, du cinéma que je rappelle était muet à l'époque. Et la première star masculine. D'ailleurs, il est mort d'une façon assez stupide, mais il laissa un grand vide puisqu'il avait à peine 30 ans, il me semble. Donc, Valentino, on l'a trouvé aussi scandaleux. Parce que, comme beaucoup d'hommes encore à cette époque, il avait l'habitude de se maquiller, mais lui, il les montrait. Son statut de star de cinéma muet l'exigeait, bien sûr, mais les gagas, qu'il voulait limiter, avait pris à imiter cette côté féminin de Valentino dans la vie de tous les jours. À un point que dans les toilettes des restaurants new-yorkais, dans les toilettes des hommes, on pouvait parfois trouver des distributeurs automatiques de poudre de riz. Voici un autre axiome qui peut être intéressant à considérer, c'est que la gaga et sa masque parfois se confondent. Valentino avait remis au goût du jour les bijoux pour hommes. Notamment, il portait des chaînettes en or au poignet et autour du cou, et il portait la montre au bracelet, qui jusqu'alors était considérée être un accessoire efféminé. On ne peut pas dire non plus qu'il soit été un exemple de virilité détonnante, mais en tout cas, la montre bracelet aujourd'hui est considérée être même plus virile que la montre à gousset, donc merci Valentino. J'ai l'habitude de parler de ce genre de sujet devant un public qui s'intéresse surtout à l'évolution de la mode. Donc, comme je pense que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, je vais juste faire un petit point sur les changements assez importants qu'il y a eu dans la mode masculine entre années 20 et années 30. Je préfère toujours montrer des dessins de l'époque, des dessins de mode, puisque je trouve qu'ils sont plus parlantes que des photos. Les dessins, même si ce n'est pas des grands artistes qui les ont faits, ils montrent quels étaient les idéaux de beauté de l'époque. Du coup, on peut voir à quoi les hommes des années 20 et des années 30 auraient voulu ressembler. Voilà. Donc, on peut aisément constater que dans les années 30, la mode masculine bouscule de l'autre côté de la représentation de l'élégance. L'échangement est lent, mais très bruyant. Comme il est évident en comparant les deux dessins, dans les années 30, l'homme il devient résolument viril, voire macho, et ça c'est grâce, ou à cause si vous voulez, par faute de la mode américaine qui arrive en Europe finalement. Alors qu'avant, désolé de le dire, c'était plutôt Paris qui inspirait la mode. Après, ça devient l'Amérique. L'Amérique avec les self-made men, les hommes qui se sont faits tout seuls et qui, du coup, ils ont besoin de montrer leurs muscles constamment en public. Quels sont les signes extérieurs de ce changement? Des épaulettes qui se développent d'une façon surdimensionnée. Les vestons deviennent plus courts pour montrer derrière presque les fesses, alors que les pantalons sont devenus très larges. Même les visages sont changés. Avant, vous avez des jeunes hommes tout frais et tout beaux, des poupons, alors qu'après, c'est des hommes de 35, 40 ans, 45 ans qui ont fait fortune, qui ont succès et qui, probablement, ils voyagent en bateau, vu ce qui se passe là derrière. Tout ça pour introduire une nouvelle figure du gaga, qui est celui du gangster, ou si vous voulez, du proxénète. Il y a plein de caricatures. 3 minutes. Voilà. Voilà pourquoi les gangsters des années 30 et 40 étaient eux-mêmes des gagas. Donc, quel est le principe du gangster? Pour cacher ses affaires, les gangsters doivent se présenter comme des hommes élégants, avec une certaine classe, pour ne pas attirer des soupçons. Malheureusement, la plupart de ces individus étaient d'origine modeste et ils étaient très souvent italiens. Donc, inutile de cacher les goûts pour la parure des Italiens, encore une fois. Étant des hommes d'origine modeste, dès qu'ils ont, comme ils viennent de gagner de l'argent immédiatement, tout de suite, avec leur trafic plus ou moins légal, ils abusent d'une élégance très voyante. Comme on peut aussi voir ici, voilà, en devenant tout de suite la caricature d'eux-mêmes. Là, au milieu, dans le groupe, c'est Al Capone. Ici, c'est deux tueurs d'Al Capone, enfin, c'est-à-dire des hommes payés par Al Capone pour tuer, hein, pas l'inverse. Qui, d'ailleurs, ils ont l'air de se complaire beaucoup de leur mise, puisque les mafieux, les gangsters des années 30 et 40, ils se faisaient prendre en photo très régulièrement avec une passion, avec une vanité et exagéré vis-à-vis de leur rôle dans la société. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le gaga a la tendance à se faire plus discret. Les années 40 et 50 se chargent de les rendre une bête en voie d'instinction. On en voit encore sous les boulevards des petites villes de Provence, sur les terrasses des cafés passées des modes. Il y a une renaissance du phénomène à partir des années 70. Une époque où la mode masculine se charge de tous les excès. Peut-être pour compenser ce qu'on ne pouvait pas avoir avant, faute d'argent ou à cause du moralisme du bon ton typique des années 50. Les années 70 furent par contre très gaga, mais d'un gagaïsme à la mode, donc finalement peu spontané. Les gagas n'étaient pas prêts à la naissance de la mode. On a vu que le gaga est un produit du 19e, donc d'une époque où l'homme essaye de ressembler à un idéal de beauté et de raffinement que la mode, à partir des années 70, ne propose plus. Du coup, le gaga ne devient pas seulement, à partir des années 70, un personnage ridicule, mais aussi out of fashion. Il y a quand même une renaissance du gaga aujourd'hui. On va faire un petit panorama rapide par rapport, par exemple, aux sapeurs. Les sapeurs, c'est des Congolais qui sortent de leur misère quotidienne en réagissant avec l'apanache d'un garde-robe particulièrement tape à l'œil. Les sapeurs font couler beaucoup d'encre encore depuis quelques années. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de développer l'argument aujourd'hui. Une chose intéressante par rapport aux sapeurs, c'est que la communauté noire a été toujours portatrice d'une élégance tape à l'œil, d'une élégance très bariolée. Et voici la preuve, ça c'est des blagues du début du 20e siècle, qui déjà en fait représente un certain gagaïsme noir au tournant du siècle. Pardon. En Italie, voici monsieur Lino Jeluzzi, qui est le célèbre propriétaire d'une boutique de vêtements de luxe à Milan. Lui, il incarne parfaitement les gaga milanais, qui est un petit peu différent par rapport aux gaga de Naples. Les gaga milanais, il fait semblant de travailler dur pour être riche. Alors que les gaga de Naples, il fait semblant d'avoir pas besoin de travailler pour être riche. Moi, je préfère les gaga de Naples, bien sûr. Donc, juste un conseil en regardant ces images-là, méfiez-vous toujours d'un homme qui porte une cravate avec un smoking. Voici monsieur Lapo Elkan, qui est le neveu de Gianni Agnelli, mort il y a quelques années, une dizaine d'années peut-être, qui était le directeur de l'usine de voitures Fiat. Lapo Elkan lui-même, il porte que des vêtements conçus sur mesure par lui-même, des vêtements parfois qui appartenaient à son grand-père, qui était un homme d'une extrême élégance, mais que lui, il fait modifier pour les rendre ce que vous voyez. Et enfin, voici les parents du Pitti Uomo. C'est un salon pour les marques et les tailleurs italiens qui se tient deux fois par an à Florence. Les Pitti est chaque année envahi par les gaga. Ils y vont pour se pavaner devant les photographes, tout en faisant semblant d'être là par hasard. Et enfin, je vais aller très vite si c'est possible.
Ouais.
Bon, je vais essayer. Je veux parler juste des masques du gaga au cinéma et dans la bande dessinée. Un bref panorama. Dans le cinéma italien, il y a énormément de films qui parlent de gaga, qui mettent en scène des gaga, mais c'est des films qui ne sont, hélas, jamais passés en France. C'est un film d'Eric von Stroheim, donc un film hollywoodien des années 20 qui met en scène un gaga qui vous voyez bien, c'est le personnage au milieu, qui fait semblant d'être riche pour draguer la femme du protagoniste, alors qu'en réalité il s'agit d'un petit filou, de rien du tout. On a aussi les personnages de Mickey Messern ou Mec les couteaux, je ne sais pas si c'est traduit comme ça, c'est un personnage de l'opéra de Bertolt Brecht, de l'opéra des Trois Sous. Ça, c'est un film de 1931 où le protagoniste abuse de tous les signes extérieurs du proxénète. Il porte des chaussures bicolores, il a des gants constamment sur les mains, il a une chemise très amidonnée, et voilà. Et ensuite, Le Petit César, lui aussi c'est un film de 1931, avec l'acteur Edward Robinson, qui dans le film imite Al Capone. Dans le film, on peut suivre l'ascension sociale du protagoniste par rapport à la taille grossissante des perles de ses épingles à cravate. Et enfin, La mort à Venise, que ça vraiment vous connaissez tous, de Luchino Visconti, un film de 1971, où les protagonistes, qui est un vieux professeur de musique, qui a un look qui va avec, tombe éperdument amoureux d'un jeune garçon, et pour se faire remarquer par celui-ci, il décide de changer complètement de look et de façon de faire. Le jeune garçon, il les remarque probablement à peine, alors que les Vénitiens, ils font en sorte de se moquer de lui pendant tout le reste du film. Dans la bande dessinée, il y a les trois personnages du fameux Le Pied Nickelé, une bande dessinée des années 20. Ces trois petits filous qui se débrouillent pour ne jamais travailler, et dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont la possibilité, ils s'habillent comme des grands seigneurs. Et similaire, mais bien plus bon enfant, c'est le personnage de Gontran Bonheur dans Picsou. C'est un cousin de Donald, il est toujours un peu trop apprêté, une chose qui énerve tout le monde. Une des phrases les plus célèbres sur laquelle je vais terminer. Il y a longtemps, dans un moment de faiblesse, je travaillais.